RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Hens.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Main baladeuse, remarque sexiste, la vague MeToo qui déferle sur l'hôpital. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jérôme ?
Non, bien sûr que non.
Barbara ?
Non, on s'en fout pas.
Et mon cher Mourad ?
Non plus.
Une libération de la parole partie de l'infectiologue Karine Lacombe qui a dénoncé la semaine dernière dans Paris Match les comportements de Patrick Peloux qu'elle qualifie de prédateur sexuel, des accusations réfutées hein, par le célèbre urgentiste qui lui assure n'avoir jamais agressé personne, même s'il reconnaît avoir été un peu grivois par le passé. Pourquoi on ne s'en fout pas, mon cher Jérôme ?
Mais parce qu'une fois de plus, ça permet l'ouverture des voies, ça permet d'avoir la dimension de ce qui s'est passé pendant des années à l'hôpital.
Il y a eu des mauvais comportements à l'hôpital.
Ben, c'est un vase clos, l'hôpital. C'est, si tu veux, c'est une structure où tu vis les uns sur les autres, où tu es dans le. Mais
façon de parler.
Bien sûr, où tu as une verticalité.
Et vous êtes beaucoup.
Où tu as une verticalité, où tu as une hiérarchie qui est extrêmement importante.
Oui.
Où t'as une pesanteur qui est extrêmement importante, où t'as des non-dits, où t'as, enfin, je veux dire, le monde hospitalier, c'est pas la société, quoi.
C'est plutôt une mini-société.
Et donc, il y avait une omerta depuis des années, cette omerta, elle explose. Et c'est important.
On parlait de l'esprit carabin.
Mais ça n'a rien à voir.
Non, mais l'esprit carabin, en gros, c'était, on fait des blagues grivoises et sexistes entre nous. Ça permet de mettre un recul par rapport à ce qu'on vit, parce que c'est vrai que c'est une profession où t'es confronté à la mort, à la détresse, à la maladie, et que ça permet d'avoir une soupape.
T'es pas obligé de mettre une main aux fesses parce que t'as besoin de comprimer.
Exactement. Faut pas tout mélanger.
Non, mais c'est clair.
Faut pas tout mélanger.
La problématique, si tu veux, c'est que certains médecins ont profité de leur position, en ont usé et abusé vis-à-vis des
gens qui
travaillaient avec eux. Il y avait une omerta là-dessus.
C'est-à-dire que l'infirmière ne pouvait pas dénoncer le chef de service, en gros.
Mais parce qu'elle risquait de perdre son poste.
D'accord.
Très simplement.
Donc le MeToo hôpital,
pas seulement l'infirmière, mais aussi les internes, les petites internes ou les petits internes, parce qu'à mon avis, il doit y avoir aussi des cas avec des hommes. C'est pas que les femmes non plus qui en sont victimes. Je pense qu'il y a aussi des hommes qui peuvent en être victimes. Pas de la part de femmes, ou quoique, mais enfin surtout de la part d'autres hommes. Donc non, moi je pense que c'est très bien. Je pense qu'effectivement, tu as raison, Jérôme, c'est une mini-société. C'est une société qui vit en vase clos, le vase clos de l'hôpital, avec les rapports de domination. Des rapports de domination d'une société.
Et comme dans plein de domaines, pardon.
Et avec des chefs de service qui sont quand même très majoritairement masculins. Moi je suis désolée, quand on fréquente un peu l'hôpital, on voit que les chefs de service, bah excusez-moi, c'est tous des hommes. Moi il m'est arrivé à nombreuses reprises d'attendre dans des hôpitaux, tu regardes les plaques là où t'as les chefs de service, bah c'est que des hommes. Alors peut-être qu'effectivement va arriver toute une vague de femmes qui vont venir un petit peu féminiser ce pays. Ça s'est féminisé comme métier. Après, je pense qu'il va y avoir un temps de changement et que ce temps de changement s'ouvre par la libération de la parole des femmes, c'est bien. Après, attention, moi je reste très à cheval sur la question. Par exemple, sur Monsieur Peloux, j'attends les plaintes. Parce que c'est bien d'écrire des livres et de dénoncer des propos grivois. Moi, je veux des plaintes. Parce qu'à un moment donné, quand ça, on est juste dans la dénonciation de il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais en même temps, je ne porte pas plainte, moi, ça me gêne un petit peu.
Je suis d'accord avec toi. C'est important de rappeler que Patrick Peloux est présumé innocent. J'attends effectivement aussi les plaintes. Et puis, par extension, je ne voudrais pas que cette libération de la parole serve à certains à salir la médecine aussi. Et qu'on confonde une fois de plus les avec des. Les avec des. Parce que là, partout, et notamment sur les réseaux sociaux, on voit depuis quelques jours une attaque sur les médecins, sur le corps médical, et pas sur des médecins ou des membres du corps médical.
Mourad Boudjelal.
De l'hôpital, rapidement. C'est évident. Rapidement, vous avez des hommes et des femmes, quel que soit le milieu. Il y a forcément un rapport de séduction qui s'installe. À l'hôpital, il y a des adultères, il y a des couples qui se créent, harcèlement,
c'est
notre mieux. Par contre, Karine Lacombe, moi, j'ai juste un truc à dire. Je me méfie quand même parce qu'on a vu pendant la période de Covid à quel point elle aimait les médias, elle aimait exister.
Karine Lacombe,
elle a une grande chute, on n'en entendait plus parler. Donc, je me méfie toujours de gens qui sont en recherche de nouvelles. Peut-être. Je me méfie, c'est tout, voilà.
Bon, les GG, Emmanuel Macron a-t-il parlé un peu trop vite ? Le plan C au Stade de France pour accueillir la cérémonie d'ouverture que le président a explicité hier matin sur RMC n'a en fait jamais été évoqué avec les organisateurs. Est-ce qu'on s'en fout pas, Barbara ?
Non, on s'en fout pas, c'est rigolo.
Jérôme ?
Ah non, on s'en fout pas, non.
Mourad ?
Alors moi, je m'en fous des Jeux Olympiques.
Oh. Bon, alors, en cas de grosse... Ça me donne une idée les GG, écoutez, en cas de grosse menace terroriste, le président de la République a parlé hier pour la première fois de l'existence d'un plan B, même un plan C pour la cérémonie d'ouverture des Jeux. Donc, écoutez.
Il y a des plans B et même plan des plans C.
Oui.
Je vais être très clair avec vous. Ouais. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voir qui rapatrierait dans le Stade de France.
OK.
Une cérémonie donc réduite place du Trocadéro, voire au Stade de France. Sauf que cette dernière option dans l'enceinte sportive n'a jusqu'ici jamais été évoquée parmi les solutions de repli. Simplement parce que des compétitions ont lieu au Stade de France la veille de la cérémonie d'ouverture, mais aussi le lendemain. En fait, le chef de l'État aurait parlé de Stade de France à titre d'exemple, comme il aurait pu parler de n'importe quel autre endroit, selon les infos de BFM.
Franchement, on a l'impression qu'il gère les Jeux Olympiques, notre président, comme
gère la France.
Le maire d'un tout petit village fait le Corso Fleuri.
C'est ça.
Le Corso Fleuri d'Escane Crabe, quoi.
Ah ben c'est ça, exactement.
Je veux dire, à un moment, quand même, quand tu dis, bon, on va avoir le plan B ou C, ça sera le Stade de France, et puis que tu as un conseiller qui va dire, non, il y a le rugby à 7 la veille. Ah, mais donc ça sera pas le Stade de France. Ah
ben, s'il y a besoin, qu'est-ce le rugby à 7, il dégagera, je te
qu'est-ce
le dis.
Que, oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'autre part, il a fait le choix, le président de la République, de faire cette cérémonie d'ouverture sur les bords de Seine. On l'a vu qu'on l'a réduit de plus en plus comme peau de chagrin.
Ça on a réduit dire... le, non, on a réduit le nombre de spectateurs.
L'étiage, du nombre
sinon,
de spectateurs.
C'est toujours sur 6 kilomètres.
Mais là, vous imaginez le truc? C'est-à-dire que si tout d'un coup on disait, ah, mais non, il y a une trop grande menace, on le fait ailleurs. Mais les terroristes ont gagné déjà, quoi. Les terroristes ont gagné. Ils t'ont mis la main là-dessus. Bon, et après, je veux dire, depuis le début, quand même, cette menace, elle existe. On est au plus haut niveau de la menace.
Bah alors,
on est au plus haut niveau.
Donc, on arrête de vivre.
Donc, on vient d'apprendre. Non, mais justement. Donc, on vient d'apprendre qu'il y avait un niveau au-dessus. Donc, si on est au plus haut niveau, ben à ce moment-là, on dit, non, mais les gars, tout de suite, on arrête, on va le faire au Stade de France où les gens seront protégés.
Non, mais moi je suis
très,
comme...
C'est très confus, ce truc.
Je suis comme Mourad, je m'en fous complètement des JO. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça révèle encore une fois.
Ben là, on parle de la sécurité.
Oui, mais ce que ça révèle encore une fois des personnalités, d'un point de vue même psychologique, de ceux qui nous dirigent. Emmanuel Macron, c'est notre bon roi. Notre bon roi veut la cérémonie qui claque et qui fait beau. Notre bon roi dit ah bah allez les gars, allez Stade de France. Notre bon roi, moi c'est ça qui m'insupporte, c'est cette parole qui est à la fois légère et pleine de cette suffisance monarchique. Enfin franchement, je suis épuisée de l'entendre parler de tout et de rien. Cette interview là sur RMC, c'était passionnant. On a même eu la balle aux prisonniers à l'école. Enfin le type te parle de tout, de tous les petits détails. C'est exactement ça. C'est le maire du village.
Parce qu'il maîtrise tous les sujets, parce qu'il est trop fort.
Voit.
Parce qu'il est meilleur que nous. C'est notre président bien-aimé.
Voilà. C'est ça, c'est ce que je te dis. C'est notre grand leader.
Il est spécialiste de tout, de la balle aux prisonniers, de la sécurité. Il est capable de dire qu'il faudra 90 médailles parce qu'il est aussi spécialiste du sport.
Et c'est le meilleur à la balle des prisonniers d'abord.
Pardon, s'il ne maîtrisait pas ces sujets, s'il ne rentrait pas justement dans les détails.
Il maîtrise pas
tout d'un coup. Que
moi, je peux vous dire une chose. J'avais dit non au sujet. Pour avoir organisé des compétitions dans des enceintes à peu près équivalentes au Stade de France, à part au Stade Vélodrome, dans des enceintes à 68-69 000 personnes, ça se fait pas en 48 heures.
Mais bien sûr.
Voilà. Bon. Ça se fait pas en 48.
Les GG, ce ne sont pas un, mais deux héros français qui ont fait face à l'assaillant de Sydney, qui a fait 6 morts au couteau vendredi dans un centre commercial. Est-ce qu'on s'en fout pas?
Ah bah non.
Barbara, Jérôme, Mourad. Une vidéo amateur a émergé sur les réseaux sociaux montrant un homme muni d'un poteau en train d'essayer de stopper l'assaillant en haut d'un escalator. Il s'agit donc d'un Français, Damien Guéraud, c'est son nom, 31 ans. Présenté comme le héros par les forces de l'ordre australiennes, de même que son ami, un autre Français. Oui, ils sont deux, Silas Despros, qui a tenté aussi de bloquer le tueur au couteau, Damien Guéraud, qui a été interviewé par la télé australienne. Écoutez.
Je n'ai pas vraiment eu peur. C'était quelque chose d'assez fou dans mon cerveau, une certaine adrénaline. Vous réalisez que le gars est en train de courir vers vous, vous ne réfléchissez pas. Ses yeux étaient vides. C'est comme s'il n'était pas là.
Voilà, l'Australie qui a même décidé d'offrir la citoyenneté à ce Français, Damien Guéraud. Alors, pourquoi on s'en fout pas, Barbara ?
Non, c'est important. C'est important que ces hommes, à chaque fois, ou ces femmes, soient mis en... en relief, en valeur, comme à Annecy, les personnes qui avaient à la fois secouru et empêché l'assaillant de continuer, le terroriste de continuer ses méfaits. Donc je pense que c'est important de les valoriser pour envoyer un signe au reste de la société. Des études de psychologie sociale ont montré que quand il y a un événement de ce type qui prend, ce qui saisit tout le monde d'effroi, il suffit qu'il y en ait un ou deux dans le métro, un ou deux dans la rue, un ou deux dans le centre commercial, qui se mettent à agir, et vous avez le reste du groupe qui peut en débloquer d'autres. Encore une fois, quand personne ne bouge, vous restez dans l'effroi qui s'impose à vous, et ça, c'est de la psychologie sociale qui le montre. Quand il y en a un ou deux qui se lèvent, il se passe quelque chose. Encore une fois, je le dis, je sais que c'est compliqué, mais il faut à un moment donné se sentir la capacité, alors après lui il a l'air baraqué, etc., mais il faut se sentir la capacité d'être celui qui se lève.
Il a dit j'ai pas réfléchi.
Non, mais voilà, c'est sûr, voilà. J'ai pas réfléchi, c'est pas la peine d'intellectualiser.
Exactement.
Le truc.
Non, c'est pas une question d'intellectualiser. Le problème, c'est que tu vois dans les transports en commun, par exemple, quand il y a un incident, si personne ne se lève, y compris les baraqués ou les pas baraqués, personne ne parle.
Oui, mais Mourad qui a dirigé un club de rugby, et moi, mon modeste moyen qui l'ai fait aussi, on te dira que le courage, c'est pas lié au fait d'être baraqué ou pas.
Comme ah bah ça,
il te le dit, c'est de l'instinct.
C'est souvent les femmes qui parlent.
Mais l'instinct, il se construit aussi avec ton parcours, parce que justement cette absence de réflexion par rapport au danger, ben c'est ton parcours qui va faire que tout d'un coup tu vas te lever ou pas te lever. Mais il faut le saluer parce qu'on a tous besoin de valeurs positives, et c'est extrêmement symbolique. C'est un Français. On décrit tellement la France comme un pays qui a peur, etc. Mais là, Français qui se lève, et il faut vraiment le saluer, le mettre
en place.
Le cadeau, parce que il aura un passeport érythréen, je dirais, bon, c'est bien la nationalité australienne, mais bon, mec, il est français, le cadeau qu'il lui
donne. Il vit
en Australie, mais bon,
en étant français, tu peux vivre en Australie.
C'est pas grand chose.
Imagine l'été australien,
ça leur a pas de
chance. Je rappellerai qu'on a fait la même chose, l'hypercachère, ce jeune employé a eu la nationalité française parce qu'il avait sauvé aussi des gens qui étaient à l'intérieur de l'hypercachère.
Mais là, c'est un Français en Australie. Je ne sais pas si un Australien qui se serait levé en France, on lui aurait dit on vous donne la citoyenneté française, le mec lui dit oh non,
j'en veux pas. C'est gentil, mais.
En tout cas, c'est un exemple à
bravo
suivre
à
parce que les occasions héroïques, hélas, bravo ne vont pas manquer.
On essaye de l'avoir dans les GG.
Eh bien, ça serait bien qu'on lui passe un petit coup de fil, tiens.
Je vais partir à sa recherche.
Ouais. Quoi qu'il te il plaît à Anaïs.
Anaïs,
d'ailleurs, elle est
en Australie.
Anaïs a toujours eu un faible pour les héros.
J'aime le pays des kangourous.
Oui, bien sûr, oui.
Et barbus.
Surtout les kangourous.
Il suffit que le mec soit un peu baraqué, barbu, une bonne tête et il fasse du surf.
N'importe quoi. Elle a les yeux bleus, ouais. Arrêtez.
Il ressemble à un acteur français. Qui a joué dans Pussy Affinity.
Non, il ressemble à Bradley Cooper.
Est-ce que tu préfères Carlos Tavares ou ce jeune Français?
On aurait pu donner 36 millions à lui. Voilà.